docteur Pascal Lafrogne, bonjour.
Bonjour, bonjour chers auditeurs, bonjour à toute l'équipe. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder le difficile sujet de l'alcool. L'alcool, bien que festif, convivial, amical, mondain, ce produit peut être aussi à l'origine de véritables drames personnels, conjugaux, professionnels ou familiaux, et je peux en témoigner dans ma pratique au cabinet. Tout d'abord, un petit peu de chimie, si vous le voulez bien. L'alcool, l'éthanol, plus scientifiquement, est un produit qui est obtenu par une fermentation, une distillation. Il est contenu en quantité variable dans les boissons, exprimé en pourcentage, c'est-à-dire une proportion d'alcool pur contenu dans une boisson. Et en France, les différents types de verres, à bière, à vin, à champagne ou à liqueur, eh bien, tous contiennent la même quantité d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool, soit une unité dose, une dose alcool, dit-on, quelle que soit la quantité de liquide. Il faut reconnaître qu'à la maison, nos verres contiennent en général un petit peu plus que 10 grammes d'alcool. Alors, les limites de la consommation vis-à-vis de la santé s'expriment donc en unité, en dose alcool, de 10 grammes. Et on dit qu'il faut se limiter à moins de 10 unités, 10 doses par semaine, avec 2 jours sans consommer d'alcool. Et seule cette information va donner une bonne représentation de la quantité de produit qui agit sur notre cerveau, et concrètement sur sa toxicité. L'alcoolémie, le taux d'alcool dans le sang, lui est un reflet de cette quantité d'alcool. Il est utilisé vis-à-vis de la loi, par exemple pour la conduite en voiture. Et ce taux d'alcool, l'alcoolémie, est en corrélation avec l'effet de l'alcool sur le cerveau. Et il s'agit bien de regarder en effet un effet d'une substance chimique sur un organe, sur mon organisme, et plus précisément sur le cerveau. C'est la définition d'une toxicité. On parle du monoxyde de carbone sur le poumon et l'oxygénation du sang. Et il y a une toxicité du monoxyde de carbone. On peut parler de l'amiante, des rayonnements nucléaires, etc. Eh bien, le produit alcool est une substance chimique qui a un effet sur un organe. Il s'agit d'un phénomène de toxicité. Et l'alcool est un produit toxique. Et ça, c'est une réalité à constater. Alors, les effets immédiats sur le cerveau altèrent la conscience, les perceptions par nos 5 sens. Ils peuvent altérer le comportement. On peut constater également l'effet de l'alcool sous forme de détente. Ça peut être une euphorie, ça peut être même une excitation, voire une désinhibition. L'alcool peut altérer nos réflexes et il peut même entraîner des troubles des conduites. À plus forte dose, ce qui peut être appelé l'ivresse, eh bien l'alcool provoque une mauvaise coordination des mouvements, une mauvaise élocution. Il peut abîmer la vigilance, la mémoire et entraîne une non-maîtrise des actes et tout cela. Et écoutez bien, et tout cela avec une perception des effets qui est toujours en écart avec la réalité. C'est-à-dire que celui qui consomme ne se rend pas compte de la réalité de ce qui est en train de se passer. Sa perception est toujours, toujours mauvaise, toujours en écart par rapport à ce qui est la réalité. Dans les cas de consommation plus importante, consommation excessive, peuvent survenir des troubles des conduites sexuelles, peut survenir une agressivité avec des violences verbales et parfois même des violences physiques. Nous connaissons tous les bagarres de sortie de boîte de nuit. Ça peut même aller jusqu'au coma. c'est-à-dire un trouble grave de la conscience qui peut même entraîner la mort. Alors, au-delà de ces cas de consommation aiguë, une consommation plus habituelle, plus rituelle, parfois plus chronique, peut s'installer. Alors, pourquoi cela ? Alors, la molécule alcool, la molécule OH, cette molécule va dans le sang, va dans le cerveau, au niveau de sa structure intime. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement du cerveau au niveau de la synapse, c'est-à-dire la jonction entre deux neurones, il va au niveau du neurone, donc, et il se présente à la surface du neurone, et il va interagir directement sur le fonctionnement du neurone et sur la transmission de l'influx nerveux. Il déclenche alors le circuit de la récompense, qui est un circuit de satisfaction, et ce circuit de la satisfaction est un circuit que l'on cherche tous à activer, peu importe la manière. Cette satisfaction entraîne la recherche de la satisfaction. C'est d'autant plus que le cerveau va, il faut bien le noter, s'adapter également de façon à atténuer les effets négatifs de la substance alcool sur le neurone. De sorte qu'il faudra de plus en plus d'alcool avant de ressentir les mêmes effets de la substance sur le cerveau. C'est ce qu'on appelle l'accoutumance. C'est un phénomène qui est constaté dans tous les phénomènes d'addiction. Hein. Et ça, c'est on ne peut y échapper. C'est-à-dire qu'il y a le déclenchement du circuit de la récompense et une adaptation pour atténuer les effets négatifs de la substance sur le neurone. Les deux amenant à augmenter la consommation pour ressentir les mêmes effets. Il faut donc une dose progressivement croissante avant de ressentir les effets. Et à ce stade, les choses sont encore réversibles, dirons-nous. Puis peut s'installer une habitude qui devient ancrée, qui devient de plus en plus ancrée, jusqu'au moment où l'on perd la liberté de l'abstinence. Et c'est là la définition de l'addiction. J'ai perdu ma liberté de m'abstenir de consommer le produit. Addiction veut dire attirer vers. Ensuite, la consommation va progresser au point de ne plus pouvoir s'en passer. Stopper la consommation reviendrait à déclencher des signes de sevrage quand ce sevrage est trop brutal, pouvant même entraîner donc une reprise de la consommation pour atténuer le manque. Et là, le piège se referme. Il s'agit de la dépendance. Vous avez pu remarquer qu'il ne faut pas attendre la dépendance pour que l'alcool ait un effet sur le neurone. Bien des patients me disent « Mais docteur, moi, je ne suis pas dépendant. » Oui, mais n'empêche que le premier verre, même pour moi, le premier verre d'alcool a un effet sur mon cerveau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un véritable piège se met en place, et ce sera le cas pour les autres addictions, le disais-je tout à l'heure. La consommation entraînant la consommation est toujours au titre de bonnes raisons que l'on connaît. La convivialité, l'amitié, la détente, le goût, la culture, la tradition, le rafraîchissement ou au contraire le réchauffement, bref, autant de bonnes raisons qui sont en fait des alibis pour camoufler une réalité, atténuer la nocivité d'un produit, banaliser sa consommation, innocenter le produit et sa toxicité. Je le répète, l'alcool est un produit toxique, là est sa réalité. Quitter cette réalité peut être extrêmement imprudent. Et justement, la prudence, la raison, la juste mesure, la volonté nous permettront de profiter de l'apéritif sans tomber dans un excès, dans un risque, dans un danger. Et ce piège, eh bien, il se met en place bien insidieusement. Au point d'anesthésier la volonté. C'est un processus insidieux dont on ne se rend pas compte. Ce processus est bien une pathologie, une maladie authentique, avec des degrés de gravité variables. Et le consommateur d'alcool est bien plus un malade qu'un alcoolique. Il est bien plus un patient qu'un ivrogne. Il est bien plus quelqu'un qui a besoin d'aide qu'une personne qui manque de volonté. Cette cascade infernale peut se déclencher à la suite d'une souffrance morale ou d'un désordre. Un deuil, un chômage, une séparation, une maladie, une anxiété, une souffrance morale, une tension professionnelle, peu importe. Ou elle peut survenir également sur un terrain plus familial également, où tradition, éducation, génétique et histoire familiale vont se mêler subtilement. Mais cette cascade peut être également à l'origine de problèmes et de désordres, des désordres personnels, familiaux, conjugaux, professionnels ou amicaux. Et il peut déclencher une anxiété, une dépression, une culpabilité, une mésestime de soi, un rejet, une accusation, etc., etc. Alors, pour ceux qui constatent la consommation chez l'autre, eh bien, il faut quitter les lunettes de l'accusation, du jugement, de l'interprétation, pour regarder la vérité objective. Nous sommes devant un problème objectif, médical, pathologique, dont il faut se sortir. Et il est plus que probable qu'une aide très spécialisée sera nécessaire, voire impérative. Le constat des conséquences peut aider à la prise de conscience de la cause, de la source. Cela peut aider à sortir du déni. Si je constate que manifestement dans mon travail, ça va de moins en moins bien, je suis de moins en moins bien concentré, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Et si je viens à la source de cette perte de concentration, et je me rends bien compte que la seule chose qui a changé, c'est le nombre de bouteilles que j'achète toutes les semaines. Et là, je suis devant le constat. Alors, pour ces personnes, pour nous qui regardons et constatons la consommation chez l'autre, eh bien, il nous faut quitter la robe du procureur, ou alors le gilet du sauveteur, qui veut sauver, mais à ma façon, à moi, tel que moi je le conçois, moi. Il faut quitter ces vêtements pour revêtir le manteau du bon samaritain, afin d'avoir un regard ajusté sur celui qui a besoin d'aide et faire en sorte faire ce qu'aurait fait le Christ à notre place, aimer, aider et sauver. De même, prenons conscience, et là je me place dans le regard de celui qui consomme. Eh bien, prenons conscience que celui qui a désormais une image vrillée de l'alcool, celui qui a un comportement déréglé vis-à-vis de l'alcool, que je constate au regard des conséquences, je me rends compte que mon regard a été abîmé vis-à-vis de l'alcool, que mon comportement n'est pas tout à fait ordonné vis-à-vis de ça. Eh bien, je dois prendre conscience que j'ai besoin de soins, que j'ai besoin d'un soignant. Et le regard de jugement que j'ai sur moi, eh bien, c'est un regard qui n'est pas ordonné. Je ne dois pas l'écouter. Parce que l'organe qui me permet de me regarder, par lequel je me regarde, par lequel je me juge, par lequel je me désestime, par lequel je m'évalue, et plus exactement, je me dévalue. Eh bien, cet organe, c'est lui-même qui est la cible des effets nocifs et dévastateurs de mon ennemi toxique qui est le produit que je consomme. C'est-à-dire que, pour me juger, je vais utiliser l'organe dont le fonctionnement est altéré par ma consommation. Donc, il ne faut pas que j'écoute ce jugement-là. Parce que je sais d'emblée que ce jugement n'est pas le bon, puisque l'organe du jugement est lui-même altéré. Et je dois donc accepter les mains qui me sont tendues. Je dois accepter l'idée aussi de tendre la main pour demander de l'aide. Et ici, surtout à Radio Maria, je peux témoigner, je peux attester, je dois vivre de ce constat même que même aux prises d'une addiction, d'une dépendance, d'une consommation dont je ne sais me défaire, eh bien oui, je peux témoigner, je peux vivre que je suis infiniment, infiniment aimé du Christ tel que je suis. Il n'attend pas que je change pour m'aimer. Là, à l'instant où je le sais, je l'entends, je l'écoute, je le regarde, il m'aime tel que je suis, infiniment. Je suis déjà pardonné par Jésus. Je suis l'objet d'une infinie tendresse, d'une profonde bienveillance de Marie. Je suis soigné, apaisé, bandé, choyé des grâces de l'Esprit-Saint qui me comblent à la perfection pour que je puisse un jour retrouver mon Père, mon Créateur, qui désire, lui, me prendre dans ses bras, me placer tout près de son cœur et me regarder face à face. Il attend que je désire et que je puisse lui dire « Abba, Papa », car il désire me sauver et me voir tout près de lui pour la fin des temps. Alors notre espérance de chrétien, d'enfant de Dieu, aimé du Christ, ne doit pas nous quitter et doit nous aider à nous inscrire dans une démarche thérapeutique. Et il nous faudra la foi et l'espérance et les soins médicaux. Et ces soins médicaux, d'ailleurs, si l'on regarde, sont d'authentiques actes de charité. Un acte de charité de moi-même envers moi-même, si je suis le malade, et un acte de moi-même vers mon prochain, si je suis celui qui aide. Alors voilà, chers amis, ce que je souhaitais vous partager. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Peut-être que cela pourra être l'objet d'une autre émission. Qui sait, si vous le souhaitez, je suis à votre disposition. En tout cas, je suis prêt à répondre à vos questions. Amen.
Docteur Pascal Lafogne, nous venons de recevoir une question par SMS d'un auditeur ou une auditrice qui n'a pas souhaité signer. Comment réagir devant un alcoolique qui est dans le déni et qui fuit la situation?
Alors, donc, dans la question, on constate le déni. Alors, effectivement, celui qui est dans l'addiction, dans la consommation, alors d'une façon plus générale, hein, on peut remplacer le mot alcool par jeu, les jeux, soit les jeux électroniques, soit les jeux au casino, ça peut être le travail, ça peut être la drogue, ça peut être les médicaments, ça peut être le sexe, etc. Bien nombre de beaucoup d'addictions existent. Et donc la caractéristique, c'est que la personne qui est dans la consommation a un jugement qui est altéré. Et du coup, dans le mot déni, je remarque que dans les conversations, il y a quelque chose qui est un petit peu, quelquefois, un peu accusateur. Oui, mais il est dans le déni. Oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, si on prend le mot scientifique, le sens scientifique de déni, c'est que la personne n'a pas conscience. C'est pas qu'elle refuse, c'est qu'elle efface la prise de conscience n'est pas possible. Et petit à petit, par exemple, ça peut être, je le disais tout à l'heure, ça peut être le constat des conséquences. C'est-à-dire que il y a forcément des conséquences, puisque c'est le fonctionnement du cerveau étant modifié, il y aura forcément des conséquences. Alors quand on est sur un produit qui est psychoactif, par exemple, eh bien, il va y avoir des troubles de la mémoire, des troubles de la conscience, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, la ponctualité, l'agressivité. Il peut y avoir, enfin j'essaye de, je réfléchis un petit peu à voix haute, mais voilà, et c'est devant le constat des conséquences que l'on peut être amené à réfléchir à mais d'où cela vient, depuis combien de temps cela s'est-il installé. Et en faisant le listing des choses, eh bien, il y a un moment, on peut tomber sur le constat. Ça peut être aussi le constat des courses. C'est-à-dire que si j'accompagne la personne faire ses courses et que toutes les semaines, il y a 2 bouteilles de pastis dans chaque caddie, on peut se dire, mais est-ce que c'est normal que dans ton caddie, il y a 2 bouteilles de pastis alors que dans le mien, il n'y a pas. Il y a 1 bouteille de pastis, mais tous les 3 mois, tous les 4 mois. Ça peut être ce constat objectif, c'est-à-dire qu'il faut arriver à prendre conscience, il faut arriver à un constat. Un constat. Je suis moins heureux dans mon couple, je suis de plus en plus agressif, j'ai des troubles de l'érection, j'ai des troubles de la libido, je suis insatisfait dans mon couple, dans ma famille, etc. etc. Et à ce moment-là, il faut se placer vis-à-vis de la personne, je le disais tout à l'heure, non, ni dans l'accusation, ça c'est terrible, parce que la personne qui consomme est avant tout quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être aidé. Il ne se rend que trop que les choses vont de travers. Il ne sait pas forcément d'où ça vient et comment s'en sortir, mais il se rend bien compte qu'il y a des moments où il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, il ne faut surtout pas prendre le manteau de l'accusateur et il faut se méfier du manteau du sauveteur. Hein, le père Pascal Hitte décrit ça très très bien. Le sauveteur, c'est celui qui veut sauver, mais comme lui, il pense que c'est juste lui. Pas comme le Christ sauve. Le Christ y sauve en se donnant, et en se sacrifiant, et en aimant avant tout. Et en fait, il faut aimer cette personne, ça c'est un prérequis, mais je ne pense pas que ce soit l'idée de la question. Il faut aimer et se mettre, tendre la main, et lui dire, bah, écoute, si tu un jour penses que tu peux avoir besoin d'aide, sache que je suis toujours à tes côtés. Ou bien, si tu as du mal à constater que tes 2 bouteilles de pastis dans ton caddie toutes les semaines, ça t'est difficile à en parler, alors que moi, j'en ai qu'une tous les 3 mois, sache que moi, je trouve qu'il y a un écart. Mais ça, c'est un sujet suffisamment compliqué. Tu n'es pas obligé d'en parler avec moi, mais peut-être que tu as besoin d'aide et je suis prêt à t'accompagner dans cette démarche-là. Voilà. Moi, je peux témoigner dans mon activité combien de situations, en tant qu'homme, j'aurais pu me retenir de poser des questions un petit peu limites, un petit peu désagréables, etc. Et finalement, en tant que soignant, en les posant, j'ai vu dans le regard, ça y est, enfin quelqu'un me tend la main pour m'en parler. Et les gens n'attendent que ça. Ils n'attendent que qu'on leur en parle. Parce que eux, pour eux, en parler, c'est trop difficile. Ça peut être l'un déni, mais ça peut être aussi excessivement difficile. Et ça, il faut l'entendre. Hein. C'est très, très difficile de reconnaître que j'ai une addiction vers un produit, vers une substance chimique. Il faut se rendre compte, hein, je parlais tout à l'heure, que la définition, c'est la perte de liberté de l'abstinence, mais c'est terrible pour quelqu'un de se rendre compte qu'il a perdu sa liberté. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de perdre sa liberté. Demander aux gens qui ont vécu la prison, la perversité, une relation complètement vicieuse dans la profession ou dans le milieu professionnel, quand on perd notre liberté, mais ça rend malade. Ça rend malade. Et si on pouvait s'en sortir, ben, ce serait simple. Mais le problème, c'est que dans une relation perverse, vous êtes non seulement pris au piège, et vous ne savez pas comment vous en sortir. Et c'est vraiment un piège qui se referme. Et donc, il faut vraiment avoir ce regard de... On est devant un processus pathologique et on est devant quelqu'un qui a besoin d'aide et de soins. Voilà. Voilà un petit peu les éléments que j'aurais à fournir un petit peu à cette question-là.
Alors, peut-être une autre question que peuvent se poser des auditeurs qui pensent avoir une consommation occasionnelle ou modérée. Quels sont, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier qu'on est toujours, qu'on maîtrise toujours sa consommation et que on n'est pas en train de tomber dans l'addiction.
Je reprendrai les éléments de la précédente question. Je pense qu'un des premiers critères objectifs, c'est cette perte de liberté. C'est-à-dire que quand je suis à un apéritif et que on me propose un jus de tomate et un verre de champagne, est-ce que je reste fondamentalement libre de prendre le verre de jus de tomate? Est-ce que je reste libre? C'est-à-dire que bon, je peux apprécier le champagne, bien évidemment, mais est-ce que je le prends librement? Et cette perte de liberté de quand je reviens du travail, avant de passer la soirée, j'estime avoir besoin d'un temps de détente. Et pour ce moment de détente, eh ben, fond de verre de whisky, ça me fait du bien. Avant de commencer ma journée, alors ça c'est un peu plus inquiétant, mais ça peut arriver, ou dans des situations particulièrement stressantes, je verrai en réunion et pour affronter mon conseil d'administration ou etc., eh bien je ressens le besoin ou l'envie ou l'habitude de prendre un petit Canada Dry ou quelque chose comme ça. Eh bien, si cette habitude s'inscrit, eh bien ça peut être le signe que j'ai un souci avec l'alcool. Ça peut être un souci quand je me rends compte que quand je prends un apéritif, je ne suis plus libre de dire je m'arrête au premier verre et j'ai besoin de deux, d'un deuxième ou d'un troisième. Et un apéritif qui s'entend bien, c'est deux pastis ou rien, etc. etc. Voilà. Cette perte de liberté, je pense, est vraiment un critère très très fort. C'est-à-dire que si je regarde bien où j'en suis dans ma consommation et dans mon comportement vis-à-vis du produit alcool, est-ce que je vois quelque chose avec lequel j'ai perdu une partie de ma liberté? Et ça peut aller assez vite, hein. Ça peut aller assez vite, hein, avec ce phénomène d'addiction. On est dans le sud-est, hein, on connaît le vin d'orange, le vin de citron, etc. Au début de l'été, vous consommez un fond de verre parce que ça peut être un petit peu fort. À la fin de l'été, vous en êtes à trois et l'apéritif continue. Et personne n'y peut rien. Sauf si je me rends compte que, attention, j'ai perdu ma liberté de me dire « je m'arrête au premier ». Et je continue parce que, au nom de, oh ben, je ne ressens pas les effets, donc je peux continuer. Et donc, je me laisse embarquer dans quelque chose que je ne maîtrise pas. J'ai perdu ma liberté. Voilà.
Alors, il y a une jeune femme qui a témoigné dans un documentaire à la télévision sur le sujet de l'alcool. Et c'est une personne qui a fait le choix d'arrêter de boire de l'alcool. Alors, elle ne se prive pas d'apéritifs pour autant, mais elle ne boit plus que des boissons non alcoolisées. Et elle a constaté l'aspect sociologique de l'alcool, parce que ses amis et ses proches se sont mis à la regarder bizarrement en se demandant « Mais pourquoi elle arrête de boire de l'alcool? Où est le problème ?» Elle s'est rendue compte de la pression sociale de l'alcool.
Oui, et il y a une forme de perte de liberté également là, hein. Il y a une perte de liberté. Et effectivement, il y a une pression sociale, il y a un regard accusateur, mais enfin, c'est pas si grave, c'est pas si mauvais que ça, et au contraire, celui qui ne consomme pas de l'alcool va être accusé. Et ça, c'est la banalisation qui est notre drame nous, en tant que soignants, la banalisation est le mode d'entrée de toutes les consommations. Et nous, en tant que soignants, ça nous fait hurler quand on entend nos autorités, qu'elles soient sanitaires, politiques, peu importe, dire « ça n'est pas si grave de boire du vin, ça n'est pas si grave de prendre un pastis de temps en temps ». Mais en instillant cette idée de la banalisation d'une consommation d'un produit toxique, on amorce, on crée le terreau fertile à toutes les consommations et notamment chez les plus jeunes. Parce que ça n'est pas si grave que ça. La banalisation est un véritable drame. Et effectivement, au nom de cette banalisation, on va créer une ambiance. Alors moi, j'ai connu des personnes qui, devant ce constat-là, pour garder leur liberté, ne refusaient pas le verre d'alcool qu'on leur tenait, ne y touchaient pas, le tenaient en main, comme ça on était comme les autres. Ils n'y touchaient pas parce qu'ils avaient bien identifié que ce qui était dans le verre était un produit qui leur était nocif, voire interdit. Et du coup, ils se méfient énormément de ce verre-là. Et puis, de temps en temps, et puis je vais vous dire, comme tout le monde, ils vont au buffet et ils vont se servir un verre d'eau pétillante. Mais comme ils ont un verre de vin dans la main, ben, ça n'est pas condamnable. Et pour le coup, comme tout le monde, on boit à la fois du vin et un peu d'eau pétillante. Et du coup, les gens... Alors, c'est dramatique, hein, on est bien d'accord sur le constat social. Hein, mais c'est une parade qui permet de se débarrasser de cette espèce de culpabilité et d'avoir, en plus du combat de « j'ai pris cette décision et je revendique ma liberté », eh bien, d'avoir en plus à gérer le regard accusateur des autres. Alors, pour se débarrasser de ça, comme de toute façon, ce regard, on ne va pas le changer en un claquement de doigts pendant la soirée, ce n'est pas le sujet de la discussion, eh bien, autant... entre guillemets, jouer le jeu et donner l'apparence d'être un consommateur comme tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain. Et je peux vous garantir, en tant que soignant, j'ai vu un paquet de patients tomber dans l'alcoolisme chronique à cause de l'alcoolisme mondain, parce que c'est pas si grave de prendre un verre d'alcool de temps en temps, sauf que quand les mondanités sont toutes les semaines, eh bien, toutes les semaines, on a l'habitude de boire tant et tant, etc. Et donc, il faut donner cette apparence de la mondanité. On va laisser ça comme ça. Et puis voilà. Et à l'intérieur, eh bien, parce que j'entends complètement que cette culpabilité, ce regard accusateur soit très difficile à porter. Mais honnêtement, il faut accepter, enfin, faut en faire le deuil. C'est pas pendant le cocktail qu'on va discuter de ça, quoi. Enfin, je pense qu'il faut savoir y renoncer à ça.
Alors, Monique vient de nous envoyer une question par SMS. Le sang du Christ est représenté par le vin à la Sainte Eucharistie, me dit mon petit-fils, ancien enfant de cœur, que répondre ?
Alors, le vin est utilisé sur l'autel, non pas comme... le vin contient de l'alcool, on est d'accord, et donc objectivement c'est un produit toxique, on est d'accord, mais en fait le pain et le vin sont sur la table, parce que, et on le dit pendant le rituel de la messe, c'est le fruit du travail des hommes. Et la vigne, la production du raisin, et dans la Bible, on dit, il y a des paraboles d'être l'ouvrier à la vigne du Seigneur. Et il y a beaucoup plus un symbole lié au travail et au fruit du travail de l'homme, de la même façon que le pain, qui est le fruit du travail de l'homme, et que ce fruit du travail de l'homme est transformé par la grâce et par le sacrement en corps et en sang du Christ. Voilà. Et quand on regarde la quantité de vin qu'il y a dans le calice, je ne pense pas qu'il y ait de problème là-dessus, mais au niveau, alors, après, il est incontestable que dans le calice, dans le vin, il y a de l'alcool. On est d'accord là-dessus. Mais ce qui fera tomber nos prêtres éventuellement dans l'alcoolisme, ça ne sera pas ce vin consommé pendant l'office, mais le vin qu'ils auront à consommer parce qu'ils ont un problème, etc. Et les prêtres, comme tout le monde d'ailleurs, hein, les médecins, les chirurgiens, les juges, comme tout le monde, et sont soumis aux mêmes pressions, et on est tous, moi compris, tous aussi fragiles vis-à-vis de ce produit-là, et on est tous appelés à la même prudence. Mais le pain et le vin présents sur l'autel sont bien des symboles du travail des hommes.
Alors peut-être une dernière question. Que pensez-vous des opérations telles que le mois de janvier sans alcool? Et on peut faire un parallèle aussi avec le mois sans tabac qui se déroule au mois de novembre.
Eh bien, c'est très très bien. C'est très très bien. Pourquoi? Parce que ça éveille à la prise de conscience et ça incite à retrouver sa liberté. C'est-à-dire que si ça me pose un problème d'envisager un jour sans alcool, bah c'est que j'ai un problème. C'est aussi simple que ça. C'est ce constat-là. Hein. C'est-à-dire que, oh là là, c'est long, et bien ça, c'est un problème. Hein. C'est ce constat-là qu'il faut amener. C'est que, comment se fait-il que ce mois de janvier sans alcool me soit insupportable? Mais parce qu'il est sans alcool et que l'alcool m'est nécessaire. Ça s'appelle comme ça, hein, et voilà.
Et d'ailleurs, en tant que chrétien, on pourrait très bien aussi faire un carême sans alcool ou sans tabac ou sans une substance qui est susceptible de poser problème.
Ça, je souscris complètement à ce que vous dites et on peut aller bien au-delà de ça. On peut faire un mois sans télé, un mois sans écran, un mois sans notification des nouvelles sur notre téléphone, un mois sans, en faisant le pari que mon temps d'écran je vais réduire chaque semaine de 10 à 20%. Voilà, on peut imaginer. Alors, il ne faut pas faire un mois sans sport. Hein. Attention, il ne faut pas faire un mois sans bien manger. C'est-à-dire que l'idée, c'est de retrouver quelque chose qui est vertueux. Et il ne faut pas enlever ce qui est bon pour l'homme. Mais au contraire, retrouver ce qui est bon pour l'homme, la prière, la charité, l'aumône, etc.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Pascal Lafrogne. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter un dernier message pour nos auditeurs?
Non, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de ce sujet qui est un véritable drame, je le répète, dans bien des situations. Et on peut étendre le sujet à toutes les addictions, quelles qu'elles soient. Des auditeurs m'avaient posé des questions sur les jeunes et les écrans, par exemple. Voilà, alors après, bien évidemment, le sujet est vaste et il faut distinguer le jeûne et la consommation du vendredi soir ou du samedi soir avec la consommation de la femme seule, divorcée ou veuve dans son appartement, éloignée de ses enfants et de ce cadre dynamique ou cadre professionnel qui est soumis à une pression. Voilà, et chaque situation mérite un regard vraiment plein de bienveillance et individualisé. C'est pour ça qu'il est toujours complexe de généraliser ces sujets-là. Voilà. Mais bon, je reste à la disposition des auditeurs s'ils posent des questions hors antenne. Et puis, peut-être que l'émission sera l'occasion d'aborder ce sujet sous d'autres angles, bien évidemment. Je vous remercie et je vous porte dans mes prières.
Merci beaucoup, docteur Pascal Lafrogne.
Au revoir.
Au revoir.